France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. La semaine qui débute sera rythmée par la réforme des retraites en France. Après une réunion à ce propos hier soir à l'Élysée avec différents membres de l'exécutif, un déjeuner est organisé ce midi avec la majorité et Emmanuel Macron. Les partenaires sociaux seront également reçus ce lundi par la ministre des Solidarités Agnès Buzyn et le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye. Jean-Paul Delevoye qui n'a par ailleurs pas déclaré sa fonction d'administrateur au sein de l'Institut de formation de l'assurance. Il aurait dû le préciser à l'Autorité pour la transparence de la vie publique et s'en excuse ce matin. La réforme des retraites, donc, fil rouge de cette semaine. Elle sera dévoilée dans son intégralité mercredi par le Premier ministre Édouard Philippe. D'ici là, la grève se poursuit, notamment dans les transports. Le trafic reste très perturbé à la SNCF. La direction conseille d'ailleurs aux voyageurs de ne pas se rendre en gare s'ils le peuvent aujourd'hui. En région parisienne, 10 lignes de métro sur 16 sont totalement fermées. Les syndicats appellent à une nouvelle journée de grève demain. Des mères de famille en tête de cortège hier dans les Yvelines à Mantes-la-Jolie et à Paris. Accompagnées d'un millier de personnes, elles ont manifesté pour réclamer justice après l'humiliation subie par leurs enfants lors d'une interpellation. C'était il y a un an tout juste. 151 jeunes et lycéens avaient été filmés par un policier à genoux, les mains dans le dos et sur la tête. L'enquête de l'IGPN avait débouché sur un non-lieu. L'alerte rouge a été levée à Mayotte après le passage du cyclone Belna. Il n'a finalement pas touché l'île cette nuit. En bref, encore la campagne électorale qui s'est terminée hier soir en Algérie. 5 candidats sont en lice pour la présidentielle organisée jeudi prochain. Tous sont plus ou moins proches du président démissionnaire Abdelaziz Bouteflika. Et puis notons que dans les rues de Hong Kong, 6 mois après le début des contestations contre le régime de Pékin, une immense foule de militants pro-démocratie a encore défilé hier. Ils étaient 800 000 selon les organisateurs, 180 000 manifestants selon la police.
Informer, découvrir, décrypter, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Une mobilisation massive contre la réforme des retraites, décembre 2019, rejoint la longue liste des mouvements sociaux sur ce thème. Comment analyser cette protestation? Je poserai la question à Pierre Rosanvallon. L'historien sera dans les matins ce lundi.
Les matins de France Culture, ce lundi dès 7h et sur franceculture.fr. Chaque jour sur France Culture à 10h, les chemins de la philosophie par Adèle Vanrette.
Qui a dit que la philosophie n'était pas accessible à tous? Chaque jour, je vous emmène à la découverte d'un philosophe à partir d'un poème, d'un roman ou d'un film, en musique et en chanson, pour voguer en sécurité sur la mer parfois houleuse des discussions philosophiques.
Les chemins de la philosophie, toute cette semaine à 10h et sur franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel. Et ben ce matin, on va reparler de l'affaire Seznec, ce fait divers bientôt centenaire, ce feuilleton à rebondissements qui continue à passionner la France au fil des décades. Et ce qui passionne, c'est bien sûr de savoir si oui ou non la justice a condamné à tort un homme envoyé au bagne qui a toujours clamé son innocence. Les enfants et les petits-enfants de Guillaume Seznec et de Marie-Jeanne, son épouse, entretiennent l'idée d'une erreur judiciaire. Et à chaque épisode de cette affaire, eh ben c'est les médias. Une poussée de fièvre médiatique accompagne cette affaire. Mon invité ce matin, l'historien et essayiste Michel Pierre, revient sur le procès Seznec dans un ouvrage au titre « On ne peut plus clair, l'impossible innocence » et c'est édité par Talandier.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Michel Pierre.
Bonjour.
L'impossible innocence, histoire de l'affaire Seznec. C'est édité chez Talandier, je viens de le dire. Et j'ai envie de citer Marguerite Duras, le fameux sublime, forcément sublime, qu'avait écrit Marguerite Duras en 1985 à propos, bien sûr, de l'affaire Grigori. Le sublime, forcément sublime, qui voulait dire coupable, forcément coupable, parlant de la mère du petit Grigori, son fils de 4 ans disparu, Christine Villemain. On a su ensuite, bien sûr, que c'était pas la mère qui était coupable de cet assassinat. On a envie de vous dire la même chose, Michel Pierre. Pour vous, Sesnec est coupable, forcément coupable.
Il est, en reprenant tout, et toute archive ouverte aujourd'hui, quelques décennies après les événements, c'est-à-dire aussi bien l'enquête, l'instruction que le procès, on peut avoir aucun doute sur la culpabilité de Guillaume Sesnec, malgré ses dénégations, malgré ses affirmations d'innocence, et malgré le fait que l'on n'ait pas retrouvé le corps de sa victime, ce qui n'est quand même pas très nouveau pour un certain nombre de faits divers et d'affaires criminelles.
Il faut quand même peut-être résumer cette affaire, même si elle est très connue par les Français depuis les années 20, puisque ça s'est passé un 25 mai 1923. Guillaume Sesnec, propriétaire d'une scierie près de Morlaix dans le Finistère, et son ami Pierre Kemener, conseiller général de ce même département, qui étaient des amis de jeunesse, partent pour Paris à bord d'une Cadillac issue des lots de véhicules bradés par l'armée américaine après la Première Guerre mondiale, parce que les Russes sont intéressés par ces voitures. Donc les deux hommes comptent vendre cette voiture à Paris et ainsi débuter un trafic lucratif. Sauf que ils partent tous les deux et on ne verra plus jamais Pierre Kemener. Et très vite, Guillaume Sesnec va être accusé du meurtre de son ami.
L'enquête prouve d'abord qu'il revient seul, comme vous le dites, de Paris. Je pense absolument pas qu'il y avait la réalité d'un trafic avec les Russes. Au même moment, en 1923, l'Union soviétique pouvait acheter neuve ce même type de véhicules. Ils étaient du reste plus intéressés par acheter des tracteurs sur le marché allemand ou sur le marché anglais qu'ils pouvaient découvrir ou acheter vraiment neuf. Ils n'ont pas se préoccuper de véhicules d'occasion datant de 4 ou 5 ans et laissé par l'armée américaine. Donc l'histoire, alors c'est bien que vous le mentionniez, parce que l'idée qu'il y ait un trafic avec ces abominables bolcheviks est un élément de la légende qui va se mettre en place. Comme en plus la voiture c'est une Cadillac, pour nous aujourd'hui et déjà à l'époque c'est le modèle de la belle américaine, même si la torpedo en question était un véhicule destiné aux officiers américains sur le front. Donc on a déjà deux petits éléments, on a la Cadillac d'un côté, les bolcheviks de l'autre, et vous avez déjà un élément de ce qui va se mettre en place de la légende que vous évoquiez. Donc effectivement Sesnec va revenir seul, sans au départ beaucoup s'inquiéter de son compagnon, et puis petit à petit l'enquête va montrer, on ne va pas rentrer dans les détails, parce que on dit fréquemment qu'effectivement l'opinion publique connaît l'histoire est tellement complexe et tellement compliquée que la résumer en quelques lignes est assez difficile. Disons que on va se rendre compte que Sesnec s'est déplacé deux fois, en particulier au Havre, pour d'une part envoyer un télégramme signé Kemener qui s'avère être un faux et rassurant la famille du dit Kemener. Il va également ramener de ce premier séjour au Havre une machine à écrire avec lequel il va rédiger des fausses promesses de vente pour s'emparer d'un domaine du disparu. Et pour l'enquête, puis ensuite pour l'instruction, les faux qui sont incontestables. Aujourd'hui, absolument personne qui connaît un petit peu cette affaire ne conteste le fait que Guillaume Sesnec ait fabriqué des faux pour acquérir de manière illégale une grande propriété, surtout 90 hectares de bois, et quand on s'occupe d'une scierie et qu'on est dans ce type de trafic...
Au tiers de son prix, hein.
Au tiers de son prix, en mentionnant qu'il a payé en dessous de table, en pièces d'or, qui n'ont par ailleurs jamais existé. Et puis, c'est ça, en fait, qui va être le nœud de l'affaire. Il aurait suffi, par exemple, que Guillaume Sesnec prouve que les deux jours, le 13 juin et une semaine après, le 20 juin, où d'innombrables témoins l'ont vu au Havre, y compris acheter la machine qui a servi à taper les fausses promesses de vente, il aurait suffi qu'il explique ou qu'il démontre qu'il était à Saint-Brieuc, comme il le dit, qu'il avait dormi dans un hôtel, qu'il est incapable de retrouver. Or, à l'époque, en plus, on remplit des fiches quand on va à l'hôtel. La police mène l'enquête et on n'a jamais rien retrouvé comme alibi pour Sesnec. Donc, il va tenter, en plus, quand il sera emprisonné avant le procès, de susciter des faux témoignages. On a en plus de lui une enquête de proximité qui montre que le personnage est quand même pour le moins douteux. Et j'ai découvert en archive, dans une lettre manuscrite de son beau-père, que 10 ans avant les faits, il avait déjà l'habitude d'imiter des signatures et de faire des faux. Alors, ça ne veut pas dire que ce qu'il faisait en 1912, il le reproduit en 1922, mais quand même, on n'a pas affaire à un ange innocent, comme on l'a décrit par la suite. On a affaire à un petit homme d'affaires retors, difficile, ne payant pas ses dettes et exigeant par contre les factures qu'il remet. Donc quelqu'un de procédurier, qui est par ailleurs bon père de famille et bon époux, mais qui a une réputation qui n'est pas très bonne dans Morlaix, où il possède sa scierie. Mais une réputation ne fait pas obligatoirement, ou même une mauvaise, un criminel.
Mais alors, racontez comme ça ce fait divers, Michel Pierre. Pourquoi, après tant d'années, l'affaire Seznec continue-t-elle de susciter une telle passion ?
Mais c'est ça qui fait vraiment le livre et l'intérêt de l'historien. C'est vraiment la question qu'on se pose. Comment se fait-il qu'un siècle après, on ait encore à en deviser et à en parler ? Quand on a ce type de... D'abord, le fait divers passionne. Le fait divers passionne l'opinion, quel qu'il soit. Vous évoquiez l'affaire Grégory, parce que avec le fait divers, vous êtes dans des sentiments immédiatement compréhensibles. Vous êtes dans la jalousie, vous êtes dans le meurtre, vous êtes dans très souvent dans l'horreur. Vous êtes dans les fluides de l'espèce humaine, vous êtes dans le sang, vous êtes dans le sperme, vous êtes dans la sueur, enfin vous êtes dans quelque chose qu'immédiatement n'importe qui peut comprendre. Ça ne nécessite pas d'avoir des connaissances culturelles considérables pour s'intéresser à un fait divers. C'est le premier élément, un vrai fait divers. Il faut aussi que ce fait divers soit incarné. Et là, comme vous le disiez, on a Guillaume Seznec, on a sa femme, on aura ensuite sa fille et ensuite le petit-fils. Donc c'est ce qui fait le fil rouge sur un siècle. Et puis, non seulement cela doit être incarné, mais cela doit être dans un territoire. Et le fait que tout ça se déroule en quelque sorte en Bretagne, entre deux Bretons, va d'abord fasciner la presse de Paris, qui vient voir un petit peu une province qui, encore dans les années 1920, on voit bien dans les reportages qui sont faits, les femmes en coiffe, les hommes en sabots, donc il y a quelque chose d'un peu exotique.
Les hommes qui sont revenus de la guerre vivant, parce que c'est la région la plus touchée par la première guerre.
C'est pas complètement, et je le dis en tant que Breton, la région la plus touchée, mais c'est l'une qui a ressenti le nombre de morts, de blessés, etc., sans doute avec le plus de force, avec l'idée qui se développe un peu d'en vouloir presque au gouvernement parisien. Et c'est un élément qui est difficile à déceler, mais je pense qu'il est présent. On se dit que c'est la justice, et la justice centrale, la justice de Paris, qui a envoyé en quelque sorte un Breton au bagne et un Breton innocent de surcroît, en oubliant totalement que que Guillaume Seznec a été condamné par des jurés bretons au tribunal à la cour d'assises de Quimper, et dans un contexte où tous les jurés étaient des Bretons. Donc c'est après qu'on imagine cette justice qui en veut particulièrement à quelqu'un, et on va construire peu à peu l'innocence d'un coupable. C'est moins grave que la culpabilité d'un innocent, hein. Mais en reprenant tous les documents et en voyant comment tout ça a été mené tant par les policiers que les magistrats, on ne peut absolument pas considérer qu'il puisse y avoir une machination policière, une affaire d'État ou je ne sais quoi.
Il y a la Ligue des droits de l'homme qui va dans le sens contraire de ce que vous dites, Michel Pierre. Ils vont croire en l'innocence de Seznec. D'autres juges, d'autres personnalités, des journalistes, des artistes vont prendre position pour dire que cet homme a été envoyé au bagne alors qu'il n'était peut-être pas coupable du meurtre de son ami.
Alors là, il faut faire la part essentielle, surtout quand on fait de l'histoire, à la chronologie. Quand il part en 1920, qu'il est condamné en 1924, il va partir pour les travaux forcés à perpétuité en Guyane. Personne dans la presse, aucun organe de presse, aucun article, pas le moindre journaliste ou chroniqueur judiciaire ne laisse supposer qu'il y ait pu y avoir
une erreur
judiciaire. Absolument pas. C'est quelques années plus tard, en 1930, qu'un juge fou, il n'y a pas d'autre mot, qui venait de démissionner du reste du ministère de la Justice, et ce juge qui va réussir, comme un certain nombre les fous osent tout. Hein. Donc il va avoir une forme d'énergie et d'ampleur des convictions qui va finir par entraîner celle d'une institutrice du Finistère qui est la représentante de la Ligue des droits de l'homme dont vous parlez. Et ces deux personnes vont recevoir, pour compléter le trépied, le soutien d'un hebdomadaire fasciste, il n'y a pas d'autre mot, antisémite et antimaçonnique de l'époque, qui s'appelait La Province, qui était publié à Rennes. Et cet attelage invraisemblable du juge quelque peu dérangé, de l'institutrice pleine de bonne volonté et de l'hebdomadaire fasciste va faire démarrer toute une campagne de presse, de réunions, sur des hypothèses extravagantes sur lesquelles il n'est même pas la peine de revenir. Et par rapport à ce que vous dites sur les jurés, d'abord c'est pas tous les jurés, mais cet ancien juge d'instruction et l'institutrice de la Ligue des droits de l'homme vont écrire aux 12 jurés et ils vont les convoquer. Il faut bien voir qu'ils vont les convoquer, pas une lettre, vous venez si vous pouvez, non. Ils vont convoquer les 12 jurés à la Maison du Peuple à Brest en leur disant, bon, on va vous expliquer ce qui s'est passé. En l'occurrence, ce que le juge, puisqu'il s'appelait Hervé, le juge Hervé, va dire que le coupable, c'est le frère du disparu qui est rentré inopinément dans une propriété, qu'il l'a trouvé en bonne compagnie, qu'il a voulu profiter de la situation. Faut que je passe le détail. On n'oserait même pas dans un roman feuilleton du 19e siècle. Donc, ce qui se passe, c'est que ces jurés, convoqués par un ancien juge et par une institutrice, vous voyez, vous y allez parce que vous demandez ce qui se passe. Et comme le juge à la faconde de quelqu'un d'un peu dérangé et qui va expliquer autre chose, ces braves jurés ayant en face d'eux une institutrice et un ancien juge d'instruction vont dire, ah ben oui, peut-être qu'on s'est trompé, très impressionné par l'autorité de ces personnages. Vous voyez, c'est pas, ils se sont pas réunis spontanément. Ces jurés, ils ont été, le mot est utilisé, ils ont été convoqués et ils ont signé un texte préparé à l'avance. C'est pas du tout eux qui l'ont rédigé, les jurés. On leur a expliqué l'hypothèse du juge et ils ont ensuite signé, pour partie d'entre eux, en comprenant pas du reste bien ce qu'ils signaient. Et à partir de là, et vous en faites mention, la légende des jurés revenant sur leur jugement a commencé à naître. Et quand vous parlez de la Ligue des droits de l'homme, ce que j'ai trouvé dans les archives de la Ligue des droits de l'homme, parce que toujours aller vers les archives, c'est au niveau central à Paris, la Ligue des droits de l'homme est assez mal à l'aise avec cette histoire. Elle va dans un premier temps suivre sa représentante locale dans le Finistère, qui n'est pas la position de la section de l'Ille-et-Vilaine, par exemple, qui, elle, considère, mais qu'est-ce que Ligue des droits de l'homme, on va se commettre avec un juge cinglé et en plus avec un hebdomadaire fasciste. Alors, pour la Ligue des droits de l'homme, c'est un peu bizarre. Ce qui fait qu'à Paris, on est très prudent avec cette histoire et ce qu'on va demander assez rapidement, c'est non pas la révision du procès, parce que il y a rien à réviser, comme on l'a vu à une période beaucoup plus récente, mais vont demander la grâce de Cesnec, qui est un homme déjà âgé quand il est au bagne. Donc la Ligue des droits de l'homme ne demande pas, au début elle le demande en suivant son représentant local, mais se rendant compte dans quel piège elle est en train de rentrer, elle va se contenter de demander la grâce.
Parce qu'il y a l'ombre d'un doute, du coup.
Quand vous demandez la grâce, c'est pas obligatoirement que vous ayez l'ombre d'un doute. Vous demandez la grâce de quelqu'un dont vous pouvez considérer qu'il est coupable, mais qu'il a suffisamment déjà payé par quelques années de bagne, et que finalement, par rapport à sa famille, ce serait pas mal qu'il puisse rentrer, qu'il soit gracié. Donc c'est pas un certain nombre de personnes, y compris à l'époque, et de journalistes n'ont aucun doute. C'est-à-dire il y a eu une majorité de l'opinion publique qui petit à petit, par un certain nombre de fausses informations, il n'y a pas d'autre mot, on se sont auto-persuadés, ont été persuadés, sans qu'il y ait un complot, hein, je sais pas du tout. C'est un phénomène qui mérite d'être analysé, ce que j'ai tenté de faire dans le détail, pour voir comment la majorité de l'opinion publique va être persuadée de cette erreur judiciaire. Et c'est pour ça que la décision, par exemple, beaucoup plus récente, puisque nous parlions des années 20, en décembre 2006, la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui...
Nouveau rebondissement, donc
bah, oui, il y avait un nouveau rebondissement. Là, il faudrait rentrer...
Médiatique, du moins.
Médiatique et voulu par la ministre de la Justice de l'époque, cette révision du procès, qui se trouvait être la mère de Morlaix par ailleurs. Donc, comme vous avez une opinion publique acquise à l'idée de l'innocence et de l'erreur judiciaire à 95%, vous avez, et c'est normal, plutôt tendance à la satisfaire. Pour donner aussi une image de la justice qui pouvait être un petit peu embellie en montrant qu'elle est capable, cette justice, de revenir sur la chose jugée. Sauf que lorsque la Cour criminelle de la Chambre de cassation va travailler entre 2005 et 2006 avec 33 magistrats qui vont reprendre l'ensemble du dossier... Aucun d'entre eux n'avait jusqu'alors été en quoi que ce soit concerné par cette affaire. Ils vont reprendre, un peu comme je l'ai fait, l'ensemble du dossier pour s'apercevoir qu'il n'y a aucune raison de remettre en cause le jugement de 1924. Mais tout ça n'a aucune importance pour l'opinion publique, pour l'honneur des magistrats. C'est plutôt bien parce que, en l'occurrence, les magistrats qui vont juger à la chambre criminelle de la Cour de cassation s'opposent à leur propre ministre, aux différents ministres, du reste, qui se sont succédés à ce moment-là, qui, eux, auraient considéré, après tout, c'est une histoire ancienne, on satisfait l'opinion et on déclare que Cesnec est innocent. Et en fait, ben, les 33 magistrats ont jugé très majoritairement désolé.
Et
nous,
la piste
on ne peut
de c'est peut-être sa femme qui a commis le meurtre et son mari, donc Cesnec, qui voulait la protéger, n'a pas tenu. Vous n'y croyez pas, Michel Pierre.
Non,
dans votre ouvrage, l'impossible innocence, histoire de l'affaire Cesnec, vous n'y croyez pas du tout, puisque vous prenez le soin de rappeler que cette version qui se base sur le fait que peut-être Kemener a essayé de draguer la femme de Cesnec ne pouvait pas tenir puisqu'il il serait, d'après vous, pas attiré par les femmes.
Bah, d'après ces documents qu'on peut trouver, l'un d'entre eux en particulier aux archives départementales de Quimper, on est plutôt en présence de quelqu'un qui n'avait pas d'appétence particulière pour les femmes en général et vraisemblablement pour Madame Cesnec non plus. Il est certainement pas revenu en plus de Paris profitant du fait que Guillaume serait pour en vouloir à la vertu de Madame Cesnec un dimanche midi. En plein jour, quand les enfants qui, jusqu'alors, dans la semaine, sont en pension, sont là. Toute cette histoire est totalement extravagante. Mais il y en aura d'autres, hein, je vous rassure tout de suite. On trouvera encore, dans les années qui viennent, d'autres hypothèses. On a à peu près fait le tour des possibilités, mais je fais confiance à l'imagination des uns et des autres et aux enquêteurs improvisés de trouver encore d'autres scénarios.
Pourquoi vous vous êtes intéressé à l'affaire Cesnec, Michel Pierre? Vous allez me dire, je suis historien, bien sûr, mais comme vous nous avez précisé que vous étiez aussi breton, c'est aussi pour remettre en cause la version qui vous a accompagné durant votre enfance, votre jeunesse?
Oui, alors c'est deux choses qu'on entend évidemment.
Ouais,
qu'on
c'était présent dans votre
oui, vie. C'était présent dans ma famille. Et puis, je suis aussi historien des bagnes et de la Guyane, donc j'avais croisé le dossier Cesnec, condamné au bagne, et son dossier quand il est là-bas, autant à l'île Royale qu'à Saint-Laurent-du-Maroni. Mais c'est surtout, comme historien, l'analyse de l'opinion publique. C'est-à-dire, comment dirais-je, quand je travaille aussi sur des sujets culturels, l'opinion publique m'inquiète. Ouais. C'est quelque chose
Alors c'est un sujet d'actualité, parce que d'ailleurs, votre ouvrage consacré à l'histoire Cesnec commence par une citation de William Shakespeare qui dit « Peste que soit l'opinion publique, un homme vous l'endosse à l'endroit aussi bien qu'à l'envers ».
Oui, je m'abris sous Shakespeare, ce qui est certainement extraordinairement prétentieux, mais il faut s'armer quand même. On a un peu droit à avoir un peu d'intelligence, de réflexion, d'affronter les... Dans l'affaire Cesnec, vous croisez aussi les théories du complot, les machinations, etc.
Enfin, et tout ça avant les chaînes d'infos en continu, avant BFM et avant les réseaux sociaux.
Oui, mais
ça a toujours existé.
Ça a toujours existé, même avant du temps des feuilles volantes, du temps des colporteurs, du temps des chansons pénales. Et là, on a quand même la grande presse, hein, la grande presse qui sent qu'il y a dès les années 30, quoi, et qui ne vont pas, On voit un hebdomadaire aujourd'hui disparu et dont peu de personnes se souviennent, mais qui tirait quand même à 500 000 exemplaires dans les années 1950, un hebdomadaire qui s'appelait Radar, qui était vraiment un hebdomadaire visant à, le plus grossièrement possible, il n'y a pas d'autre mot, appâter l'opinion publique. Et c'est Radar qui va obtenir, en quelque sorte, les mémoires de Guillaume Sesnec. Alors c'est toute cette histoire aussi que je raconte, parce que il y a des affrontements entre organes de presse, pour être les premiers sur le terrain, pour être les premiers à recueillir tel ou tel témoignage. On n'est pas dans les réseaux sociaux, comme vous dites, mais on est dans des grands combats entre un magazine comme Détective, par exemple, qui tirait là aussi à 300 ou 400 000 exemplaires par semaine, et qui fait un nombre de couvertures relativement dense sur l'affaire Sesnec, dès les années 1930 et encore dans les années 1950.
Pour terminer, Michel Pierre, l'impossible innocence de l'affaire Sesnec, c'est pour mieux montrer que la justice peut être complètement dépassée par l'hystérie des médias ou par une opinion publique qui est alimentée par d'autres réseaux d'informations, par d'autres raisons.
Mais justement, non, c'est presque un livre optimiste sur l'indépendance des magistrats. Parce que les magistrats composant la Cour criminelle de la Chambre de cassation de 2006 ont eu le courage de résister à l'opinion publique. Ils savaient très bien qu'en prenant la décision de considérer que la révision ne pouvait avoir lieu et qu'il n'y avait aucune raison de refaire un procès ou de considérer qu'on s'était trompé en 1924, ces magistrats, ils n'avaient pour certains d'entre eux, pas mesurer les insultes et tout ce qu'ils allaient recevoir de la dite opinion publique, des magistrats qui, pour certains d'entre eux, avaient jugé quelque temps auparavant Papon, par exemple. Donc, on est vraiment sur des magistrats de tout honneur, je dirais, par rapport au cas qu'ils ont pu étudier. Et ils ont fait preuve, y compris vis-à-vis de leur autorité, de leur hiérarchie et du ministre, d'une véritable indépendance. Il en faut. Quand vous savez qu'à 95% l'opinion publique veut que vous alliez vers l'innocence et qu'au vu simplement des documents, des dossiers...
Ce qu'il faut avec l'affaire Sesnec, c'est que cette opinion publique était d'abord persuadée de la culpabilité de Sesnec. C'est le fait qu'elle ait changé radicalement.
Elle change à travers tous les certaines choses que nous avons évoquées, mais justement, ce qui est bien, c'est que les magistrats n'ont pas plus tenu compte, en quelque sorte, au moment du procès, ils l'ont condamné justement, mais sans
enfin, justement, le bagne, je ne sais pas si c'est une...
Non, parce que tout a été respecté. Moi, j'ai travaillé sur le dossier, par exemple, du président de la cour d'assises, du magistrat, puisque nous en parlions de magistrat, qui était un magistrat d'une intégrité absolue. Le juge d'instruction est considéré par sa hiérarchie comme quelqu'un qui est extrêmement prudent. On lui reproche presque sa prudence. C'est-à-dire le juge d'instruction qui va travailler pendant des mois, pendant presque un an sur l'affaire Sesnec, instruit beaucoup à décharge. Il cherche vraiment, hein, c'est le rôle du juge d'instruction, on instruit à charge et à décharge, et il n'a absolument pas instruit à charge. Il a vraiment, on le voit très bien quand on est dans le dossier, il a aussi vraiment travaillé à décharge. Il y aurait eu des éléments où Sesnec aurait pu prouver ou donner un certain nombre d'alibis. Il aurait été immédiatement libéré. Donc c'est un livre sur des mécanismes d'opinion publique. Et je ne le savais pas au début de mes recherches que finalement j'allais ressortir de cet ouvrage avec une certaine image plutôt positive, récente, puisque je parle de 2006, de magistrats qui ont su simplement s'en tenir aux faits, s'en tenir aux archives, et en revenant sur la réalité des faits.
Quitte à voir l'opinion publique et plus précisément l'opinion des Bretons contre vous, Michel Pierre. Comment on a réagi à la sortie de votre ouvrage édité chez Talendier, je le rappelle, L'impossible innocence, histoire de l'affaire Sesnec?
Les conférences que j'ai pu faire ou les articles parus, par exemple, dans Ouest France ou dans un magazine qui s'appelle Breton ne posent pas de problème. J'ai même l'impression que j'ai un peu soulagé certains qui n'osaient pas dire que finalement le Guillaume Sesnec, il était peut-être pas tout à fait conforme à l'imagerie d'Épinal qu'on en avait fait. Et je n'ai eu aucune... Alors, parfois, j'ai des contradicteurs qui me demandent de préciser tel ou tel point, mais jusqu'à présent, je n'ai été victime d'aucune action, d'aucune lapidation. Alors, quelques insultes dans les réseaux sociaux, mais ça, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Et puis là, je vais faire plusieurs interventions je peux me rendre en Bretagne sans avoir des gardes du corps.
Michel Pierre, merci d'être passé ce matin.
Merci beaucoup.
C'est édité chez Talendier, L'impossible innocence, histoire de l'affaire Sesmec.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Découvrez La Belle des Abysses, podcast natif de fiction de France Culture.
La tempête a fait des ravages sur le territoire.
L'océan a recouvert les continents, l'air est devenu irrespirable. L'élite financière s'est réfugiée dans une cité immergée. À la surface, les plus pauvres étouffent dans un immense bidonville flottant où gronde la révolte.
Nous vivons tous accrochés les uns aux autres comme des naufragés à leur radeau.
Élevé à l'air libre, Marin découvre qu'il aurait dû grandir dans les profondeurs.
Il a été adopté.
L'appel des abysses, fiction en 10 épisodes, en son immersif, sur franceculture.fr et les plateformes dédiées.
20 milieux sous les mers, un livre CD coédité par France Culture à partir du célèbre roman de Jules Verne, librement adapté par Stéphane Michaka.
Des pieuvres géantes agitaient leurs tentacules comme les chevelures des furies.
Avec 60 musiciens de l'Orchestre National de France, 15 comédiens et les magnifiques illustrations de Gazol. Un livre CD France Culture actuellement disponible.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Une journée de réunion avant la mobilisation de demain et les annonces de mercredi. La future réforme des retraites va rythmer l'actualité de ce début de semaine. Bras de fer en vue, nous y reviendrons dès le début de ce journal. Vous entendrez aussi les lycéens, familles de lycéens et enseignants de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Il y a un an, 151 lycéens avaient été mis à genoux par des policiers. Dans cette édition, nous nous pencherons aussi sur le sommet à l'Élysée entre les dirigeants russes et ukrainiens ce lundi. Et puis sur la fin de la campagne électorale en Algérie. La présidentielle aura lieu jeudi. Derniers ajustements du gouvernement dans la réforme des retraites. Les ministres se sont succédés hier à l'Élysée face à Emmanuel Macron et Édouard Philippe. C'est la majorité qui sera reçue aujourd'hui avant les syndicats dans l'après-midi. La réforme des retraites sera présentée mercredi après-demain par le Premier ministre Édouard Philippe. Mais les organisations syndicales veulent déjà se faire entendre avec une nouvelle mobilisation nationale prévue demain. Le bras de fer pourrait durer selon le directeur de l'Institut supérieur du travail Bernard Vivier. Il s'en explique.
Le président de la République ne peut pas abandonner la réforme. Il en a fait un élément très important de son programme et aujourd'hui de son existence politique pendant encore 2 ans et demi jusqu'à l'élection présidentielle de 2022. Il ne peut pas baisser pavillon comme les organisations syndicales ne le peuvent pas. Donc il faut que les uns et les autres trouvent une sortie par le haut. Si cela ne se fait pas et s'il... Le président de la République est désavoué. Si le gouvernement n'arrive pas à faire passer sa réforme, nous entrons dans une crise à caractère politique et c'est le gouvernement qui peut être amené à se retirer et le président de la République a changé de Premier ministre.
Bernard Vivier au micro de Cosima Mezidi Alem. Les jours qui viennent, je vous le disais, seront très importants pour connaître la suite de ce mouvement. Une chose est sûre, demain, de nombreux enseignants seront encore mobilisés à l'appel des syndicats. Ils craignent de voir leur retraite baisser drastiquement. Les promesses de hausse de salaire n'y ont rien changé ces derniers jours, car les revendications sont profondes. Pour Philippe Mérieux, membre d'Europe Écologie Les Verts et professeur de sciences politiques et d'éducation à Lyon 2, le malaise est ancien.
Le malaise identitaire des enseignants existait, il a toujours existé. C'est difficile comme métier être enseignant. Mais jusqu'à présent, on pouvait dire que malgré tout, les enseignants faisaient corps avec leur institution. Ils se sentaient fiers d'appartenir à l'éducation nationale. Ils avaient le sentiment d'être solidaires avec un projet de société. Et même si c'était difficile d'enseigner, c'était une forme de fierté qui les tenait debout. Aujourd'hui, ils ont le sentiment que leur métier est dévalorisé, que la reconnaissance sociale n'est plus au rendez-vous, qu'on leur demande des tas de choses sans leur donner les moyens de les réaliser et que les conditions d'exercice du métier sont de plus en plus pénibles.
Des propos recueillis par Manon Klein. Le syndicat enseignant, le SNES-FSU, appelle donc à la mobilisation demain. Côté transport, la grève, elle, est encore massive aujourd'hui, lundi. Trafic très perturbé à la SNCF ainsi qu'en Île-de-France à la RATP. Il n'y a pas que pour la réforme des retraites que le haut commissaire Jean-Paul Delevoye fait parler de lui en ce moment. Nous apprenons ce matin qu'il n'a pas déclaré sa fonction d'administrateur au sein de l'Institut de formation de la profession de l'assurance. Cela n'apparaissait pas dans sa déclaration faite à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lorsqu'il a été nommé au gouvernement. Une fonction de bénévole susceptible de faire naître un conflit d'intérêts. J'ai fait une erreur, reconnaît Jean-Paul Delevoye ce matin dans les colonnes du Parisien. Près d'un millier de personnes a manifesté hier à Paris pour la justice et la dignité. Des habitants de Mantes-la-Jolie, pour beaucoup, rassemblés un an après l'arrestation de 151 jeunes. L'image avait fait le tour des réseaux sociaux. Ces jeunes, âgés de 12 à 21 ans, à genoux, tête baissée, main sur la tête ou dans le dos, dans un jardin privé et dans l'arrière-cour d'une association. Ils avaient été tenus en respect par des policiers un an plus tard. Et malgré le non-lieu de l'IGPN, leur famille reste mobilisée, Valentin Dunant.
Violence policière, justice arbitraire, mets-toi debout, on lâchera pas l'affaire.
Devant le cortège, les mamans et les enfants expriment leur colère. Un an après, Yasser a 18 ans, il en garde.
Un souvenir assez amer, même si bon, ça ne veut pas dire que je suis traumatisé. Je sais qu'il faut avancer, qu'il faut combattre. Je l'ai encore dans la gorge, ça, dans le sens où on a été indigné, c'est pas rien.
Et cette indignation est toujours présente, notamment pour cette mère de famille.
Notre démarche, en fait, c'est de faire reconnaître que nos enfants ont été injustement traités. Et on ne parle même pas des irrégularités de conditions de garde à vue et de tout le reste, avec les violences, matraquages, insultes, etc.
Les professeurs également se souviennent de ce 6 décembre 2018 comme Sophie, professeure d'économie.
Ce qui s'est passé, ça m'a vraiment, vraiment horrifiée. Bah bien sûr, des souvenirs, on en a toujours, parce que quelque part, une centaine de jeunes qui se fait agenouiller, en plus on entend un policier dire « voilà, vos professeurs seront bien contents, voilà une classe sage », pour moi c'est affreux. Quoi.
Un an après, l'enquête préliminaire de la police des polices a débouché sur un non-lieu, mais le collectif de mamans s'est constitué partie civile pour obtenir l'ouverture d'une instruction.
C'était Valentin Dunat de France Bleu Paris pour France Culture. Après avoir réuni tous les piliers de sa majorité à l'Élysée pour parler réforme des retraites, ce lundi, Emmanuel Macron recevra ensuite des chefs d'État. La chancelière allemande Angela Merkel, le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Un sommet inédit depuis 3 ans pour tenter de résoudre le conflit dans l'est de l'Ukraine où s'affrontent forces ukrainiennes et milices pro-russes. Le président français y est très attendu sur sa stratégie de dialogue avec la Russie de Vladimir Poutine, Bertrand Galichet.
L'Élysée a beau insister sur l'initiative franco-allemande qui permet cette rencontre, Emmanuel Macron figure en première ligne dans cette réunion sur l'Ukraine. Le président français appelle à un dialogue sans naïveté avec Vladimir Poutine. Il est donc attendu sur les résultats de ce sommet. La sécurité de l'Europe est une priorité, insiste Emmanuel Macron, qui veut des avancées sur la question ukrainienne avant d'aller plus loin dans le rapprochement avec la Russie. Qu'obtiendra-t-il du président Poutine, dont les éventuelles concessions seront regardées à la loupe? L'enjeu principal est l'organisation d'élections dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, où se poursuit cette guerre sporadique qui a déjà fait plus de 13 000 morts depuis 2014. Le nouveau cessez-le-feu entré en vigueur en juillet a seulement permis une désescalade, alors que beaucoup de questions restent sans réponse. L'action des milices, les mines qui infestent la région, les prisonniers à échanger. La France vise à terme une reprise complète du contrôle du territoire par l'État ukrainien.
Et j'ajoute qu'hier à Kiev, près de 5000 personnes ont manifesté appelant le président ukrainien Volodymyr Zelensky à ne pas céder à la pression de Moscou. Nous reviendrons sur ce sommet russo-ukrainien dans les enjeux internationaux avec Julie Gacon après ce journal. Avant cela, penchons-nous sur la campagne électorale qui est terminée depuis hier soir en Algérie. La présidentielle aura lieu jeudi. Une élection cruciale selon les autorités algériennes, 8 mois après la démission forcée d'Abdelaziz Bouteflika. Pourtant, ces dernières semaines, ces derniers jours, la campagne électorale n'a pas été très suivie, Leïla Berhatou.
Ce n'était pas une campagne comme les autres. Après 22 jours, la plupart des panneaux électoraux de la capitale sont restés sans affiche. Les salles ont eu du mal à être remplies. Certains meetings ont été chahutés par la population, ce qui a provoqué des arrestations. Les 5 candidats qui ont préféré les meetings dans les villes du centre et du sud, où ils ont fait des promesses de développement, n'ont pas pris position sur le mouvement de protestation qui dure depuis 10 mois et ne se sont pas non plus prononcés sur la question de la libération des manifestants incarcérés. La presse parle parle d'une campagne imprévisible, embarrassée, difficile, faite dans l'indifférence. La soirée électorale diffusée en direct à la télévision, où les candidats ont répondu à des questions posées par des journalistes, n'a pas provoqué plus d'engouement. Du côté des autorités, on répète que c'est la seule solution à la crise, que c'est un facteur de stabilité. D'ici jeudi, les candidats ne doivent plus prendre la parole en public. Le vote qui a débuté à l'étranger commence également ce lundi pour les populations nomades du pays.
En Grande-Bretagne aussi, des élections seront organisées jeudi, élections législatives anticipées. Les Britanniques vont à nouveau décider de l'avenir de leur relation avec l'Union européenne à l'occasion de ces élections. En bref encore, notons que Sanna Marin est devenue hier à 34 ans la plus jeune première ministre de Finlande et l'une des plus jeunes dirigeantes au monde. Sanna Marin a été élue de justesse par son parti social-démocrate en remplacement du chef du gouvernement finlandais. La majeure partie de la France métropolitaine sera sous la pluie ce lundi. Seuls les bords de Méditerranée et la Bretagne seront au sec. De la pluie donc majoritairement et des températures qui remontent un peu ce matin. Il fait 7 degrés à Besançon, à Lyon et à Lille, 10 degrés à Paris et à Rennes, 11 degrés à Bordeaux, 13 à Marseille. Il est 6h40. Exceptionnellement, nous ne retrouvons pas Jacques Munier ce matin pour le Journal des Idées. Nous allons utiliser ces précieuses minutes avec Julie Gacon.
Bonjour, pour le Coq-Réal.
Début des enjeux. Bonjour Julie. Ce matin, vous vous penchez sur l'avenir du Donbass en Ukraine. Il fera l'objet de discussions ce lundi à Paris.
Oui, une réunion entre chefs d'État pour tenter de mettre fin à un conflit militaire qui a fait plus de 13 000 morts dans l'est de l'Ukraine et mettre en œuvre les accords de Minsk signés il y a près de 5 ans. Ce sommet est dit au format de Normandie parce que le premier de ce type s'était tenu en 2014 en Normandie, au château de Bénouville. Il réunissait déjà tout à la fois l'Ukraine, la Russie, la France et l'Allemagne. Une telle configuration est-elle toujours de circonstance? Ce sommet a été maintes fois évoqué mais sans cesse reporté. Kiev et Moscou le soumettant à certaines conditions, notamment celle d'un désengagement des troupes de l'autre, ce qui a commencé tout doucement il y a un mois. Bonjour Alexandra Goujon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence à l'université de Bourgogne-Franche-Comté et à Sciences Po. Vous êtes spécialiste de l'Ukraine. Pour comprendre l'enjeu de ce sommet, il faut revenir un peu en arrière. On est en 2014, des groupes séparatistes pro-russe impose dans l'est de l'Ukraine la partition d'un petit morceau du territoire ukrainien autour des villes de Donetsk et de Louhansk. Il crée la République populaire de Donetsk et sa jumelle à Louhansk. Ça ressemble à quoi aujourd'hui la gouvernance de ces deux territoires que l'Ukraine veut voir revenir dans son giron?
Alors c'est une gouvernance un peu particulière. C'est plutôt, on dirait, des états un peu de non-droit, c'est-à-dire qu'on a bien des états de fait avec une population, un territoire, un gouvernement, mais il faut savoir que ces territoires, donc ces républiques, sont autoproclamées, ne sont pas reconnues par la communauté internationale, et donc il n'y a aucun droit de regard. Le régime est plutôt très autoritaire, vertical, avec une absence de pluralisme politique, et aussi, on va dire, une mainmise de la Russie progressive avec notamment la distribution de passeports russes aux citoyens de ces républiques, l'utilisation du rouble. Donc une installation...
C'est le rouble qui est utilisé en Ukraine et pas le grivna.
Dans les républiques, oui, tout à fait. Dans ces deux républiques autoproclamées. Et donc il y a cette volonté, j'allais dire, de détachement et qui, avec le temps, bien évidemment, tente à diviser les populations.
Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, dit qu'un million d'Ukrainiens ont fui le Donbass. Est-ce qu'on a possibilité de vérifier ces chiffres?
Il y en a même plus que cela, c'est-à-dire que il y aurait 2 millions au moins de réfugiés liés à ce conflit et à peu près, j'allais dire, 1 million sur le territoire ukrainien et un autre million en Russie.
Qui est évidemment une question qu'il faut mettre sur la table, notamment ce lundi à Paris, puisque les accords de Minsk signés en 2015 prévoient entre autres des élections à venir. On va y revenir. Alexandra Goujon, les accords de Minsk, leur priorité, c'était le cessez-le-feu. Est-ce que les tirs, le nombre de victimes ont diminué sensiblement de mois en mois?
Alors, les accords de Minsk, c'est 2015, à un moment, effectivement, où les combats sont assez violents. Et alors que l'Ukraine avait regagné du terrain à l'été 2014, en 2015, les républiques séparatistes étant soutenues militairement par la Russie, elles reprennent du territoire. et les combats sont violents. Donc l'Ukraine, en fait, profite un petit peu de ce moment, hein, de cette opportunité à Minsk en 2015, eh bien pour signer un accord et pour éviter que les combats continuent. Alors il y a des cycles, mais il faut savoir en fait que les combats ont pu être arrêtés parfois pour quelques jours, quelques semaines, mais aujourd'hui, en tous les cas, il y a des combats sur la ligne de contact, donc celle qui sépare les territoires administrés par les républiques séparatistes et les territoires administrés par l'Ukraine, quasiment tous les jours, avec des morts quasiment toutes les semaines.
Chaque camp russe ukrainien a amorcé un début de retrait des troupes il y a un mois, en tout cas pro-russe et ukrainien. C'était un retrait très codifié, avec des fumées lumineuses pour donner le top départ de chaque côté, une opération supervisée par l'OSCE. C'est combien ils ont reculé de combien chacun?
De quelques kilomètres, et surtout, il faut savoir que cette ligne de contact, c'est 400 kilomètres, et que là, il s'agit de 3 ou 4 points de contact. Donc c'est vraiment, c'est extrêmement, extrêmement partiel.
Or, la création d'une zone tampon fait aussi partie de ce qui doit être mis en œuvre dans le cadre des accords de Minsk.
Tout à fait. Ouais. Et en fait, à certains endroits, l'écart des troupes est assez large. À d'autres endroits, bien sûr, c'est beaucoup plus resserré. Et c'est là où c'était resserré qu'on a essayé, effectivement, d'opérer un désengagement.
Alors, le sommet de ce lundi, est-ce qu'il doit accélérer l'application des accords de Minsk ou est-ce qu'il doit les amender? Est-ce qu'il doit les corriger et revoir en disant « bon, c'est pas exactement comme ça qu'il faut que ça se passe parce que de toute façon, on n'y arrivera pas ».
Alors là, c'est assez compliqué parce qu'en fait, les accords de Minsk, c'est 13 points. 13 points, ça dépend la logique avec laquelle on lit ces 13 points. Aujourd'hui, en dehors du désengagement, les objectifs, par exemple, du président ukrainien Zelensky, c'est d'avoir un accord pour un nouvel échange de prisonniers, aller plus loin dans ce domaine-là, c'est-à-dire faire en sorte que les prisonniers ukrainiens, notamment dans les territoires séparatistes, reviennent en Ukraine.
Il y en a combien,
et bien évidemment,
à peu près, on sait ?
Bah justement, en fait, il y a une liste visiblement de 200 personnes, mais il y aurait en fait une autre liste non publique qui en fait ajouterait d'autres personnes. Donc on n'a pas encore de liste précise, hein. Mais en tous les cas, il y a un nombre de personnes relativement important. Je rappelle qu'il y a eu un échange de prisonniers, donc au début du mois de septembre, de 35 prisonniers de chaque côté. C'était déjà un premier signe, j'allais dire, de relance du dialogue entre l'Ukraine et la Russie. Et bien évidemment, c'est la question aussi du cessez-le-feu. Hein, c'est-à-dire que et ce que demande l'OSCE, c'est justement plus les armées sont éloignées et moins elles ont de chances de se tirer dessus. Mais un des enjeux quand même des accords de Minsk, pour en tous les cas, enfin, du côté ukrainien et aussi de la communauté internationale, c'est qu'à un moment donné, l'Ukraine recouvre sa frontière extérieure. Hein. Pour le moment, il y a des tensions entre la Russie et l'Ukraine sur ce point. Et
l'Ukraine n'est pas d'accord avec le calendrier, parce qu'en l'occurrence, le contrôle des frontières doit intervenir après des élections seulement. Et là, Volodymyr Zelensky dit pour nous, c'est la ligne rouge, on ne peut pas accepter ce calendrier-là. Vous parliez tout à l'heure des élections, enfin, on a évoqué le fait que des élections devaient être donc advenir dans ces territoires qui ne sont pas, où le pluralisme n'existe pas vraiment. Est-ce qu'il y a eu des élections, la présidentielle par exemple, qui a porté Volodymyr Zelensky au pouvoir au printemps, elle a eu lieu dans ces territoires-là? Comment ça s'est passé?
Ah non, alors ces territoires depuis 2014, et justement rien, c'était un enjeu. Le 11 mai 2014, ces républiques donc, ont proclamé leur indépendance, et donc il n'y a même pas pu, en mai 2014, l'élection présidentielle ukrainienne n'a pas pu se dérouler dans certains territoires. Ces territoires ne reconnaissent pas en fait l'autorité politique de Kiev.
Alors, vous parliez tout à l'heure des échanges de prisonniers, il y a eu cet échange de prisonniers en septembre dernier, parmi lesquels, alors rendu à l'Ukraine, entre autres le cinéaste Oleg Sentsov, en échange duquel, c'était un petit peu ça les termes du marché, entre guillemets, était rendu à la Russie, entre autres un témoin clé dans l'enquête sur le crash du MH17 abattu l'été 2014 au-dessus du Donbass. C'était un artilleur séparatiste, Moscou voulait le récupérer, donc en échange d'Oleg Sentsov. On a su, depuis l'enquête a un petit peu avancé, on a su que la Russie était derrière les procès séparatistes ukrainiens, et pour autant, pour l'instant, le retrait des forces russes n'est jamais formellement exigé. En tout cas, c'est jamais une question qu'on pose à la Russie. La Russie, dans ses sommets, est davantage vue comme un partenaire que comme un protagoniste du conflit.
Tout à fait. La Russie, en fait, à certains moments, s'impose dans les négociations et en même temps, lorsque parfois elle n'est pas d'accord avec l'Ukraine, elle renvoie la balle à l'Ukraine en disant « Ah, mais tout cela, il faut le négocier avec les responsables de ces territoires séparatistes ». Et elle fait tout pour, de toute façon, montrer que ce conflit est davantage une guerre civile qu'une guerre internationale, parce que bien évidemment, si on considérait la Russie comme étant un agresseur dans le conflit du Donbass, ça n'aurait pas du tout la même ampleur. Donc elle se présente effectivement comme un intermédiaire, voire parfois comme un facilitateur de dialogue entre la partie ukrainienne et la partie séparatiste. Mais on sait très bien aujourd'hui, et de toute façon les images satellites nous le prouvent régulièrement, que en fait le matériel militaire est convoyé de la Russie vers ces territoires. Et un certain nombre d'actions d'ailleurs, d'actions financières, d'aide financière à ces territoires est aujourd'hui prouvée.
Et les conversations téléphoniques, par exemple, qui ont été rendues publiques il y a un mois, toujours dans l'affaire du crash du MH17 de la Malaysia Airlines, dont il a donc établi que le missile qui a abattu l'engin avait été acheminé de Russie et tiré depuis l'est de l'Ukraine. Tout ça, ce sont quand même des éléments qui sont versés, entre guillemets, au dossier. Est-ce que c'est pris en compte diplomatiquement, notamment par la France et l'Allemagne, qui font partie de ce sommet de format Normandie et qui, aujourd'hui, montrent des signes d'ouverture vis-à-vis de la Russie. Il y a quelques temps, a voulu la réintégrer au Conseil d'administration du Conseil de l'Europe. C'est un sujet de conflit avec l'Ukraine. Voilà, est-ce que tout ça est quand même mis sur la table avant d'entamer des discussions en disant voilà ce qu'on sait, maintenant on peut avancer ensemble?
Je crois que l'attitude est beaucoup plus prudente, qu'on essaye de séparer les agendas, on est vis-à-vis de la Russie. Il faut pas oublier, la Russie, c'est un membre du Conseil de sécurité. La Russie est impliquée dans le conflit en Syrie. Je crois qu'il y a la volonté de l'aménager, de ne pas la froisser. On a parlé parfois d'humiliation de la Russie. Donc l'idée, c'est plutôt de se concentrer sur la question du Donbass. De ne pas brouiller, les agendas. Et de toute façon, concernant le MH17, il y a une procédure judiciaire en cours, notamment aux Pays-Bas. Et il y a plusieurs procédures d'ailleurs judiciaires. La Cour de justice internationale aussi a été saisie par l'Ukraine. Et ça, c'est aussi un des points clés, une des lignes rouges que les opposants à Zelensky demandent de ne pas franchir, c'est-à-dire continuer à faire des poursuites judiciaires à l'égard de la Russie.
Et c'est entre autres ce qui était dit hier dans les rues de Kiev par les 5000 manifestants qu'évoquait Clara Lecoq-Réal, qui sont venus manifester pour encourager le président Zelensky à ne pas capituler, c'était le mot employé, devant la Russie. Le contexte diplomatique a beaucoup changé, Alexandra Goujon, depuis le dernier sommet dit au format Normandie en 2014. On a un nouveau président en Ukraine, relativement inexpérimenté en diplomatie comme il l'était en politique. C'est un ancien comique qui ne jure que par la détente avec la Russie, même s'il pose certaines lignes rouges. Et puis on a les pays parrains, France et Allemagne, qui entre-temps, c'est vrai, ont changé de discours sur la Russie. Est-ce que ce format de sommet a toujours lieu d'être? Est-ce que vous le trouvez toujours pertinent pour parler du Donbass aujourd'hui et pour tenter de régler ce conflit?
Alors, il faut savoir, donc le dernier sommet a eu lieu en 2016. Il y en a eu entre 2014, on va dire, et 2016. Et ensuite, l'attitude, effectivement, du président ukrainien était une attitude un peu plus de fermeté et de considérer que, comme la Russie était un agresseur, il était difficile de se mettre à une table de négociation avec cet agresseur. Zelensky a changé un petit peu d'attitude. Il parle donc de dialogue, mais il disait aussi très récemment, comme vous l'avait dit, il est quand même chahuté par l'opinion publique. On lui pose des questions sur justement quelle est réellement sa stratégie. Il a indiqué d'ailleurs qu'il pouvait pas mettre tous les points sur la table parce que sinon les négociations seraient difficiles. Il a dit lui-même qu'il allait voir à ce sommet de Normandie, il allait voir pour la première fois Vladimir Poutine et essayer de sentir si ce dernier voulait vraiment la paix, voulait vraiment l'arrêt de la guerre. Ce dont il ne semble pas d'ailleurs convaincu. Donc ce format, c'est celui qui s'est mis en place à une occasion particulière, au moment de ces commémorations, donc en Normandie, en 2014. Il a été question d'inclure les États-Unis, mais je crois que les Européens cherchent à être à la manœuvre. Ça se déroule sur le territoire européen. C'est une des guerres les plus meurtrières depuis les guerres en ex-Yougoslavie. Hein. Par ailleurs, je crois que le président américain, d'ailleurs, a dit à Zelensky lors d'une rencontre à l'ONU, débrouillez-vous avec Poutine pour régler vos histoires. Donc, on n'est pas du tout, au niveau américain, dans une posture, j'allais dire, multilatérale de négociation à plusieurs. On le voit bien, Trump joue plutôt de relations bilatérales. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a des négociations parallèle à ce sommet de Normandie, donc on est à quatre, mais il y a aussi des négociations trilatérales qu'on appelle et qui sont en parallèle, qui sont un représentant du pouvoir ukrainien, un représentant russe, les représentants des républiques séparatistes et l'OSCE. Donc il y a déjà ce discours, j'allais dire, enfin cette relation à plusieurs hein, qui permet aussi de désamorcer entre les sommets de Normandie. Il y en a une, notamment début octobre.
Et donc d'avancer comme ça sur plusieurs fronts. Vous parliez de Donald Trump, Alexandra Goujon. L'Ukraine voudrait que les États-Unis jouent un rôle plus important et notamment, on a quand même vu la procédure de destitution vis-à-vis de Donald Trump a quand même montré des liens assez étroits entre les États-Unis et l'Ukraine. Est-ce qu'il est question, est-ce que c'est un souhait de l'Ukraine que les États-Unis prennent position et qu'ils s'engagent dans le dossier?
Oui, alors les États-Unis sont engagés dans le dossier. Hein. Ils le sont, j'allais dire, de manière bilatérale. Ils le sont parce qu'il y a des sanctions à l'égard de la Russie, du côté européen, mais là les sanctions sont européennes. Il y a des sanctions qui d'ailleurs, sous la présidence de Trump, ont eu plutôt tendance à se durcir. Et puis il y a une aide militaire. Hein. Et d'ailleurs, dans cette conversation entre Trump et Zelensky, c'est bien il y a la question de l'aide militaire.
Dont on ne sait pas si elle est conditionnée ou non à une enquête sur.
Tout à fait. Ce n'est pas tout à fait au même moment de la discussion, mais quand même, les deux points ont été soulevés. Et effectivement, Zelensky avait évoqué, je crois, avait évoqué le fait qu'il serait bien que les Américains soient à la table des négociations, parce qu'il considère que les Américains, peut-être aussi, ce serait un poids supplémentaire, justement, de leur côté. Mais je crois que ni les Américains ni les Européens souhaitent un changement du format.
Et l'Union européenne, est-ce qu'elle verse une aide militaire à l'Ukraine?
Non, l'Union européenne, hein, justement, c'est un des enjeux actuels quand même, hein, notamment entre les mains du président français qui souhaite renforcer une défense, enfin la défense européenne. Il y a plutôt des aides par État, des aides, j'allais dire, techniques, non pas d'armes létales, mais les États européens, certains États européens aident l'Ukraine de ce point de vue-là. Et puis, il y a aussi toute une coopération militaire avec l'OTAN, même si l'Ukraine donc n'est pas un État membre de l'OTAN, mais il y a des partenariats en fait qui fonctionnent.
Alors, on a évoqué dans les enjeux internationaux assez récemment ce gazoduc Nord Stream 2 qui va contourner l'Ukraine, qui va la priver des bénéfices qu'elle touchait pour faire transiter ce gaz, puisque ce gazoduc va relier directement la Russie à l'Allemagne. Ce sujet va également être évoqué, paraît-il, de tout à l'heure à Paris, entre les différents chefs d'État présents pour ce sommet au format Normandie. Est-ce que vous avez l'impression, Alexandra Goujon, sans évidemment prendre position là-dessus, mais qu'en effet, quand le président Zelensky dit que l'Union européenne est à quelques égards en train un peu de la lâcher, de le lâcher, est-ce qu'il y a une part de réalité là-dedans?
Les propos d'Emmanuel Macron, non seulement dans la question du fameux reset avec la Russie, hein, c'est-à-dire revoir notre stratégie, avec notamment l'invitation de Poutine à Brégançon fin août, puis ensuite la sortie d'Emmanuel Macron sur la mort cérébrale de l'OTAN, tout cela, bien évidemment, a été vu d'un mauvais œil, d'un très mauvais œil en Ukraine, et c'est la crainte. Et Zelensky l'a dit, d'ailleurs, il a dit, en fait, très rapidement, je vais voir si mon homologue français et mon homologue allemand sont de mon côté. Ce qui devrait être, parce que du point de vue des valeurs, ils devraient être de notre côté.
Pour conclure, la Crimée ne sera pas évoquée tout à l'heure?
Tout à fait. Alors la Crimée, la Russie ne veut absolument pas entendre parler de la Crimée. Pour elle, la question de la Crimée est réglée. Il est peu probable que Zelensky, en parle lors de ce sommet. Par contre, en Ukraine, on continue d'en parler et ça fait partie notamment des lignes rouges de évoquer lors de cette manifestation, c'est-à-dire ne pas oublier la Crimée. Et la Crimée est régulièrement citée et par Zelensky et par les dirigeants ukrainiens.
Globalement, les territoires séparatistes, il y en a encore quelques-uns en Europe et ce sont des dossiers qui en général durent depuis très longtemps. On dit qu'on veut les régler, mais pour l'instant, ils en sont au point mort.
Tout à fait. Je crois que la question du Donbass est à mettre un petit peu en perspective avec d'autres États séparatistes dans la zone, dans lesquels, pour l'instant, il y a des conflits, j'allais dire, plutôt gelés, comme en Géorgie ou en Moldavie. L'idée de la Russie, c'est quand même de pouvoir peser sur le devenir de ces États qu'elle considère comme étant faisant partie de ce qu'on appelle son étranger proche et sur lesquels elle veut avoir un droit de regard.
Merci beaucoup Alexandra Goujon d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée.
Bonne journée.